des bonnies, qu'est-ce t'as pas compris? Tu veux faire un feat quoi? Tu veux m'arnaquer ou? C'est Marseille bébé, je peux pas t'aider ou? Wesh alors les meufs, tranquille ou quoi? Graine dans la côte, en zone on a tous les droits. Paralysé, oh, je vais les blesser, oh, je l'attrape c'est sûr, j'ai localisé.
J'ai jeté la bague à Chiquito, 2 heures après je l'ai blatisté.
L'idée est de partir d'un point de vue d'une artiste ou d'un artiste, au minimum racisé, et ensuite il ou elle peut recouper d'autres trajectoires sur le spectre intersectionnel. Donc ce podcast culturel met en lumière les enjeux et la diversité de la proposition culturelle en région PACA. Et cette émission est divisée par secteurs culturels et thématiques spécifiques à la culture dans la région. La dernière fois, on avait commencé avec la danse avec notre super invitée Mariam Kaba. Il y avait aussi ma co-animatrice Olfa, que je remercie beaucoup de m'avoir aidée à lancer l'émission. Elle ne pourra pas nous accompagner pour la suite parce que mémoire et la vie est difficile, mais on la remercie et on lui souhaite bon courage pour la suite et pour son mémoire. Voilà. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui portera sur le corps de la femme dans la performance artistique avec l'invité du jour, Marchou Ramanja. Bonjour Marchou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Merci beaucoup. Et alors, avant de parler de toi et de ce que tu es en train de nous préparer, parce que pour les gens qui peuvent nous suivre en direct sur l'association, sur la page Facebook de l'association Les Marronneries qui porte ce projet culturel, ce podcast culturel, on peut voir en direct que tu es en train de nous préparer un petit hôtel pour une petite performance en direct avant d'y venir et de pouvoir parler de toi dans la culture en tant que femme racisée et dans la région PACA. On va parler un peu de l'actualité. Tout d'abord, ce qui se passe autour du domaine de la danse, l'opéra, surtout. À l'extérieur de la France, il y a la ballerine Chloé Lopez-Gomez, première ballerine racisée d'un opéra allemand, je crois, qui a porté plainte contre son employeur pour cause de discrimination raciale. Et pour en revenir à Marseille, on a à peu près le même phénomène qui se joue avec et mis en lumière notamment par Mediapart et Décolonisons les Arts. Avec le manifeste sur le racisme, contre le racisme, au sein de cette institution qui est l'Opéra de Paris, et qui a commencé notamment avec la demande de la cessation du blackface. On sait aussi que, du coup, le directeur général Alexander Nief a confié une mission sur la question raciale à Constance Rivière, secrétaire générale de la Défense des droits, et à l'historien Pape Ndiaye, pour étudier cette question-là. Donc ça nous ramène un peu justement à cette question-là, du corps racisé dans la performance artistique. On a parlé de la danse la dernière fois, mais aujourd'hui, on va parler de la performance de manière beaucoup plus générale. Et du coup, on va en venir à toi, Marchou. Du coup, on te laisse performer. Je pense que je vais décrire un peu en même temps ce qui se passe. Ici, nous voyons Marchou dans sa superbe tenue fleurie et de sang menstruel en train de se couvrir de cendres. Le geste est lent, précis, intense. Elle couvre entièrement son corps de cendres. Je pense que vous pouvez déjà entendre, au moins entendre le bruit. Elle ferme les yeux. C'est quand même d'observer une personne en transe, je pense. Très intéressant. Elle lève les bras vers le ciel. Une notion de communion, j'ai l'impression. Monter les bras en prière vers le ciel. Laisser la cendre sortir, tomber sur le sol. Et maintenant, prise du corps.
La colère, la rage, non, la violence. Au début, la violence, elle est tellement violente qu'elle n'en est plus violente. Quelque chose disjoncte dans ton cerveau. La sidération, la paralysie, l'impossibilité de dire quoi que ce soit, de répondre, de faire face physiquement ou verbalement. Quand tu as mal, quand tu as tellement mal, que tu n'as plus mal. Pareil pour la faim. Quand tu as tellement faim que tu n'as plus faim. La violence. La violence qui te chavire. Tu la prends, tu la gardes. Tu sais bien de quoi elle est capable, la violence. Alors tu l'enfermes quelque part. Pour que tout le monde soit sauf. Sauf. Sauf toi, bien sûr. Toi, tu l'héberges, la violence. Elle te chatouille. Elle te grignote. Elle te parcourt, elle t'accompagne partout, tout le temps. Tu essaies de l'oublier, tu te caches, tu ne sors plus, tu restes seul, tu médites. Tu élabores des tas de stratégies pour la contenir quand elle menace de s'échapper, de sortir de son trou. Ouf ! Tu as réussi. Tu as eu chaud. Elle était quasi indomptable cette fois. Tu sens que la situation change. Tu sens que tu ne maîtrises plus la violence. Tu te demandes que faire de cette violence. Tu donnes des coups de poing dans le mur en crépi. Tu saignes. Tu cries. Tu t'allonges sur la route nationale en pleine nuit. Pas une voiture. Tu pleures. La violence contre soi, elle naît de la violence que l'on reçoit. Je n'ai pas de mots pour réparer la violence. Je n'ai pas de mots pour remédier à la violence. Alors, je vais simplement répandre, sur mon corps le sang sacré des cérémonies d'antan, le sang sacré de l'inspiration, le sang sacré de la guérison, pour m'empuissanter, pour vous empuissanter, pour nous empuissanter.
Avec un beau sourire, elle tient dans sa main du sang menstruel qu'elle soulève vers les cieux, tout doucement, symboliquement, que lentement, elle laisse s'écouler sur son corps. Et le sang s'écoule sur son corps. Ce sang menstruel, si jugé, si méconnu, pourtant par lequel nous existons tous et toutes. C'est ce corps qui investit son corps.
Vous ferez cela en mémoire de moi.
Bravo! C'était vraiment magnifique. Merci beaucoup, Marchou, pour cette petite performance d'introduction. Alors, juste avant, pour redécrire un peu auditeurs et auditrices, ce qui s'est passé. Nous avons un superbe hôtel avec des objets symbolisant la nature, des objets naturels, des pierres, des fleurs, qui, entourés de bougies et de leur lumière, entourent aussi ce sang menstruel et cette cendre. Et c'est avec ça qu'elle s'est couverte. C'est avec ce texte qu'elle a développé... cette performance que vous n'avez pas pu voir, mais que vous pourrez voir sur Les Marronneries et sur Parlons Culture. Et du coup, je pense que je vais te laisser nous en dire davantage sur la signification et l'origine de cette performance.
Alors en fait, l'histoire du rituel, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma vie. Et moi, je suis née, j'ai grandi à Madagascar. En 2018, mon papa est mort et on a rapatrié. Il est venu se faire soigner en France. Il était déjà reparti à Madagascar. Et on a du coup organisé les funérailles selon ses vœux. Et donc, je suis retrouvée. Merci. Je me suis retrouvée dans le village natal de mon grand-père. Et en fait, là, je me suis reconnectée à tous les rites et je me suis dit que c'est aussi, j'étais en train parallèlement de travailler sur ma performance rituelle Utérus Cactus. Ouais. Et j'étais en train de travailler sur le geste et sur les gestes qui soignent et du coup, la capacité d'auto-guérison que l'on a en soi. Donc, en fait, c'est venu complètement répondre à cette quête-là. J'avais aussi réalisé toute une recherche sur le cycle menstruel avec une vidéaste et en fait toujours avec cette idée de dire que finalement le sang menstruel c'est le seul qui ne vient pas de la guerre, ne vient pas de la maladie, qui ne vient pas d'une blessure, c'est celui qui s'écoule naturellement. Et pourquoi on en veut tant à ce sang? Donc c'était aussi ça. Et c'est aussi au niveau du patriarcat, l'entrée des prêtres dans la religion, qui a donc complètement évacué les femmes des cérémonies religieuses. D'accord. Et le vin. ouais. à remplacer le sang menstruel. Le sang menstruel ouais. Voilà. Donc il y, y a vraiment toutes ces dimensions réunies. Donc ici, on peut voir le feu, les éléments, l'eau ici. L'eau, donc là, l'eau, c'est vraiment pour la guérison.
Bassine d'eau, oui.
Voilà. Donc avec les cendres. Les cendres, c'est aussi les restes. Mm-hmm. Et là, on a les cheveux. Les cheveux continuent à pousser quand on meurt. Donc,
ouais, c'est vrai.
Donc en fait, c'est aussi la vie-mort-vie, les cheveux. C'est comment ça continue. Et puis, donc ça, c'était l'alcool que, okay. Que l'on donne aux ancêtres toujours pour leur demander leur protection et ouais. leur bénédiction. Et puis après, toutes sortes de matières végétales pour se souvenir que la nature est partout et que nous devons, nous, humains, reprendre notre juste place et arrêter d'être les conquérants alors que c'est elle qui nous héberge.
Exactement, et pas jour. L'inverse. On finira bien par s'en rendre compte. Hein.
C'est ça.
Toujours trop tard, mais bon, pourquoi
voilà.
pas.
Donc, c'est exactement tout ça qui est là, en fait.
C'est vraiment génial. Voilà. Hein. Franchement, top. Top, top, top. Et du coup, bah, merci beaucoup pour cette présentation. Et on va, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Mm-hmm. Au-delà de cette présentation, comment, du coup, toi, tu te définis comme personne, Marchou ?
Alors, je suis tellement bavarde que j'ai essayé de prendre quelques notes pour, pour justement être concise. Donc, en fait, il y a vraiment la première chose, c'est qu'effectivement, ben, mon papa est malgache, ma maman est française. Moi, je suis née française blanche.
Oui.
Moi, je suis née à Madagascar et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 11 ans.
D'accord.
Donc, après, j'en suis partie. Ça a été un déracinement douloureux. La deuxième chose, c'est que j'ai noté que en ayant cette double culture, ben, j'ai été directement sortie du mode binaire.
Ouais.
Donc il faut vivre avec ça. C'est quelque chose de spécial dans un monde où tout fonctionne avec le mode binaire.
C'est très bien dit ça.
Et donc je dis aussi que je suis une femme caméléon.
Ouais.
Et je pense que c'est aussi cette histoire de double culture
ouais.
qui fait que du coup on ne sait pas. Quoi vient d'où,
ouais,
en fait.
Plusieurs voilà. facettes, plusieurs voilà. identités en une personne.
Exactement. Après, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Ben, je suis une femme cis, j'ai une sexualité hétéro, jusqu'ici c'est comme ça. Actuellement, je suis en couple avec un homme blanc.
Okay.
C'est pas facile d'être avec un mec, c'est pas facile d'être avec un mec blanc quand on est une femme racisée. Donc voilà, c'est du travail, je travaille beaucoup sur l'hétérofiction, mais je tiens à dire, et s'il m'écoute, je le salue avec, dans la joie et dans l'amour, que c'est vraiment un allié, c'est une personne qui travaille beaucoup sur sa déconstruction et ça fait
bon.
Du bien.
On tient à remercier tous les compagnons blancs, compagnonnes blancs, alliés qui,
voilà.
Qui soutiennent leurs compagnons, compagnonnes, amis, racisés dans ce combat qui est juste de se faire valoir en tant qu'être humain.
Voilà,
voilà.
Exactement. et puis alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, que voilà, que je suis aussi une artiste et là je me définis plus comme une accoucheuse polymorphe parce que du coup pour moi il y a vraiment une dimension artistique dans mon travail, mais il y a aussi une dimension initiatique et ou chamanique, en fait. Toujours, je cherche toujours à retrouver. Moi, j'ai vraiment reçu une éducation catholique forte.
Ouais.
Mon papa était protestant aussi.
Okay.
Et en même temps, les fumbas, donc les coutumes, étaient toujours présentes dans la vie quotidienne. Et donc, c'est présent pour moi, les croyances, tout ça. Et dans mon travail, ça transpire aussi. Et donc, y a des choses à prendre dans les textes sacrés. Pour moi, en tout cas.
Je suis d'accord.
C'est
l'utilisation qu'on en fait qui,
voilà,
des fois, peut
voilà.
poser davantage de problèmes. Quoi,
c'est
de
ça. Il y a des choses à prendre dans les cérémonies aussi. Et puis, c'est un ensemble de gestes qui des fois, sert juste à nous recentrer quand on est éparpillé, perdu. Et moi, je suis une personne assez hyperactive, drama queen et compagnie. Et ça me canalise.
Cet esprit d'ancrage.
C'est tout à fait ça. Et après, bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que je suis maman. Donc là, je salue mon petit Achille s'il est en train de m'écouter.
Salut Achille.
Je suis maman solo.
Bravo, tu fais maman solo.
Voilà, merci. Et donc, je suis maman d'un petit Achille dont le papa est sénégalais. Donc moi, je viens de le dire que je suis d'une maman française blanche et d'un papa malgache. Lui, son papa est sénégalais. Pourquoi je raconte ça ici dans cette émission ? Eh bien, parce qu'en 1947, lorsque les malgaches ont demandé leur indépendance, la France a envoyé les tirailleurs sénégalais pour tuer les malgaches.
Et donc, c'est un gros travail de réconciliation des ancêtres que je fais à l'intérieur de moi. Et du coup, d'avoir dilué encore mon fils, là, je crois que je travaille sur la paix à l'intérieur de mon corps. Et j'ai transmis ça pour lui aussi. Donc, pour moi, c'est aussi très important de le dire. Et puis, c'est important de dire que, justement, en 1947, on est à 2 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et donc, les Malgaches demandaient, du coup, à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Donc,
mais on ne faisait pas le lien. On ne faisait pas le lien. Donc, ça, c'était pour moi important de le dire dans ma définition.
Non, c'est très
parce que c'est un papa sénégalais. Qu'est-ce qui m'a poussée vers cet homme ? Avec qui j'ai un enfant, avec qui je ne suis plus aujourd'hui, mais l'enfant est là. Et cet homme-là, forcément, son papa intervient dans la vie de mon fils.
Bah oui.
Donc, en fait, c'est une histoire qui nous réunit. Ouais. Et pour aller jusqu'à dire que dans les contes aussi malgaches, le Sounagal, c'est souvent l'ogre, en fait, le sénégalais.
Ah oui, tu m'en avais parlé. Mais donc, du coup, ça me rappelle aussi notre conversation qu'on avait en préparant l'émission, justement là-dessus, sur ce qu'on appelle en anglais « generational curse », la malédiction générationnelle. Cette idée que les traumatismes se transmettent, en fait, dans l'ADN et les traumatismes vécus par les ancêtres, eh ben, on les vit aujourd'hui. Et je pense justement que peut-être justement ton inconscient, tes ancêtres et les ancêtres du côté du père de ton fils essaient de se rassembler, essaient de briser cette chaîne malheureuse de violence encore imprégnée dans nos ADN.
Carrément. Mais moi, c'est pour ça que je me dis que Achille, c'est merveilleux.
C'est la guérison.
Voilà, je me dis que lui, il est vraiment là pour continuer la.
Tu es aimé, Achille, c'est beau.
Oui, ça, tu es très aimé. Oh. Et donc voilà, en fait, un petit peu comment je me définis.
Super. Ben, merci pour cette définition. Pas trop dit, très bien dite. Franchement. Merci beaucoup. Deuxième question, du coup. Du coup, pour en venir à la culture, tu as travaillé dans la culture en étant tout d'abord de l'autre côté, donc production et communication, ce qui veut dire que tu avais déjà un attrait pour le secteur. Et d'où ça vient, ça ?
En fait, moi, j'ai toujours été attirée par la scène. J'étais dans une famille où on faisait des études, plutôt des grandes études. Donc, en fait, artiste, c'était pas un métier. Donc, il y avait un peu cet interdit-là, d'une part. Et puis, je pense qu'il y avait aussi une très grande peur aussi de ma part d'être là sur scène et de me dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur ?
Ouais.
Enfin, voilà, il y avait aussi toute cette dimension-là.
Ouais.
Et en fait, un jour, on m'a proposé d'écrire des chansons pour un spectacle. Et donc, je les ai écrites et on m'a dit, maintenant que tu les as écrites, chante-les, parce que je faisais partie d'un groupe de guinguettes, en fait, dans lequel je chantais, j'avais quelques morceaux à moi et quelques chœurs. Et donc, là, je me suis retrouvée à écrire ces chansons pour ce spectacle et bim, j'ai été balancée dans ce spectacle.
Donc, le chant et
l'écriture. Voilà, dans la rue, oui. C'est vrai que j'ai oublié de dire que quand j'ai quitté Madagascar à l'âge de 11 ans, ça a été un déracinement si douloureux. Je n'arrivais pas à trouver d'oreille pour écouter ma douleur. Et donc, j'ai commencé à écrire. Donc, l'écriture, c'est ce que je fais depuis le plus longtemps.
C'est très beau. Voilà. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Ce déracinement et ce besoin de s'exprimer, même si on n'est pas écouté. Quoi.
C'est ça.
Mais c'est beau que tu aies eu ce courage de passer de l'autre côté, justement, sur la scène et que tu veuilles, justement, que tu acceptes que tu vailles la peine d'être écouté et que merci. Parce que, comme vous l'avez entendu, le texte qu'elle a écrit, enfin, qu'elle nous a récité tout à l'heure, c'est elle qui l'a écrit. Et on sent déjà la profondeur et la prégnance de ton combat et de toute ton identité. Donc, je pense que tu as bien fait. Voilà.
Merci.
Du coup, ce premier spectacle, il a eu lieu quand ?
Alors, ce spectacle, il a eu lieu en 2006. Donc, ça fait pile 15 ans cette année.
C'était
à Aix-en-Provence. C'était dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie.
D'accord.
Et c'était un hommage à Jacques Rabé-Mananzar. Jacques Rabé-Mananzar, jamais cité dans les chantres de la négritude, qui est un immense poète malgache qui a travaillé aux côtés de Diop, de Césaire, de Senghor. Il a participé aussi aux premiers ouvrages édités par Présence africaine.
Ah ouais, d'accord.
Et il a fait partie des 3 députés, du coup MDRM, qui ont été à l'initiative de ce soulèvement du peuple malgache, qui a donné cette insurrection en 1947.
D'accord.
C'est un homme, effectivement, dont on connaît peu l'œuvre, mais qui a écrit autant de la poésie, théâtre, qui a été emprisonné, qui a beaucoup écrit en prison, qui a été libéré parce que un colon blanc a été touché par un de ses textes qu'il envoyait à sa femme pour lui dire au revoir, en fait. Voilà. Donc, c'est toute une histoire, en fait, Jacques Rabé-Mananza.
Jacques Rabé-Mananza, ouais. D'accord. Et du coup, tu me donnes une idée pour peut-être une prochaine émission sur le complexe du White Savior. Mais oui, c'est ce ça. Ce sera dans une autre émission. Pour revenir au thème de la femme et de son corps racisé dans l'art et la culture, qui est le sujet du thème d'aujourd'hui, quel est ton postulat ? Même si on le laisse un peu transparaître, tu vas mettre des mots plus précis peut-être dessus. Ton postulat et comment tu le fais ressortir dans ton travail. On peut peut-être revenir en même temps sur tes œuvres et performances les plus notables sur ce thème-là, justement, qui sont Croqueuses et Utérus Cactus.
Ben, moi, il y avait vraiment toute cette idée d'explorer en fait, l'intimité et cette exploration est un acte politique, vraiment. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la chose qui était très, très, très importante. Et donc, du coup, après, il y avait vraiment aussi la question des tabous, en fait, qui était pour moi très importante. C'est-à-dire que si c'était pour parler du corps dans les mêmes termes que ce qu'on a déjà vu et entendu, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment de sortir du silence des sujets, en fait. Et aussi, comme je t'expliquais au téléphone, vraiment de déranger plus que de provoquer.
Oui, la
pour moi, voilà. Pour moi, déranger, c'est je te pique les fesses. Et donc, tes fesses, elles vont quand même continuer à être assises. Mais elles vont te...
tu les sens.
Voilà, tu les sens. Donc, elles vont te faire tendre la colonne, tendre le cou, tendre l'oreille et bien écouter. Alors que si tu provoques, pour moi, c'est comme si tu plantes un poignard, soit dans le dos. Ouais. Voilà. Et moi, en fait, j'aime pas cette agressivité. Je trouve que tu ne peux pas écouter parce que tu es heurté.
Oui, agressé.
Voilà. Donc, en fait, voilà, pas du tout. Donc il y avait quand même toujours cette chose-là qui était hyper présente. Et puis après, sur l'histoire du corps, en arrivant de l'écriture, comme je le disais tout à l'heure, il y avait incarner la pensée, incarner la parole dans un corps vivant. Je suis un sujet pensant, mais je suis un sujet dansant, se mouvant, parlant, s'exprimant. Et ça, pour moi, il y avait vraiment, c'était hyper important de sentir la réunion en fait de ces deux couches en fait, voilà.
D'accord, ok. Et du coup, pour tes spectacles exactement, on va y aller dans l'ordre chronologique. D'abord Croqueuse, est-ce que tu peux nous en dire plus de la date de la première performance de cette
Alors du coup, c'était en 2011 et donc en fait effectivement c'était pour parler de la sexualité des femmes et donc j'ai utilisé la forme du cabaret. Décalé, donc des codes du cabaret mais détourné, toujours pareil pour en fait je t'invite chez moi dans mon cabaret, tu vas t'asseoir confortablement dans un fauteuil et là attention ça va piquer les fesses. Et donc il y avait vraiment ça. La deuxième chose, c'est que ça me permettait d'utiliser un costume assez dévêtu. Et il y avait la question du standard, du diktat aussi sur le corps. Il y avait vraiment l'envie de montrer mes grosses cuisses. En fait, c'est vraiment comme ça que je le voyais. Mes grosses cuisses, mes grosses fesses. Et donc là, je vais t'imposer ça. Si t'es pas content, si t'es pas contente, tu sors. Mais en fait, moi, je vais t'imposer ça. Et là-dedans, je vais imposer aussi à ton esprit la déconstruction de ton regard. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer pendant une heure de spectacle pour toi si tu te retrouves à voir ses cuisses, à t'en prendre plein les yeux de ses cuisses, de ses fesses, et en ayant un propos dessus qui ne va pas être du coup... comment dire, léger, dévalorisant, moqueur, ou au contraire vanne de cul, quoi, en fait.
Parce que là, c'est toi en fait qui maintient ce discours, en fait. C'est toi, la femme racisée, qui est l'objet de ce discours sur ton cul, sur tes fesses, qui en parle, en fait. C'est toi qui tu te réappropries, en fait, ton corps, et tu réappropries le discours qui va avec, et tu leur fais comprendre que, ben non, il y a une autre lecture à apporter, et une lecture un peu plus nécessaire, qui est celle du sujet, en fait, de la personne concernée. Donc, une légitimité dans ce discours-là.
Complètement. Et puis après, il y a eu aussi, à un moment donné, Bon, j'ai essayé d'utiliser l'humour, donc ça c'était drôle, la première version, ouais. J'avais des positions du Kama Sutra, où donc je mimais la femme et l'homme, enfin, c'était hétéro, hein, et oui. En fait, j'y avais donc toute une catégorie de mecs, en fait, ouais. Et c'était très drôle, à la fin du spectacle, il y avait toujours un mec pour venir me dire quel mec il était, pour essayer de se vanter de son... Enfin bref, c'était vraiment... Mais du coup, j'ai parlé aussi de cette chose-là, de manière détournée, sur l'exotisation aussi, en disant j'adore les vieux en secret, hein, parce que je peux pas passer à l'action, hein, parce que une jeune femme avec un vieux ça passe mal, ah ouais. Mais une jeune femme noire attention, on va dire qu'elle veut le mariage, qu'elle veut le vacille, donc il y avait aussi des moments comme ça où en fait très grinçant et en même temps des moments où tu plonges en fait dans mais donc du coup dans des sujets qui peuvent être vraiment très 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 très, très durs. J'ai parlé aussi de l'excision européenne. Ouais. Donc ça, par exemple, c'est vrai que ça nous amène à la relation avec le public. Mais il y a plein de personnes qui sont venues me voir à la fin du spectacle en me parlant de l'excision, pas du tout du point de vue européen. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai prononcé le mot excision, comme c'est moi qui l'ai dit, forcément, on est en train de... Et donc, c'était impossible pour ces personnes-là d'entendre que je parlais de l'excision européenne.
Ouais.
C'est comme si ce moment du spectacle avait été un trou dans leur esprit.
Oui, donc ça, c'est... ils l'ont réinterprété. Et tout.
Complètement.
Mais ça, c'est marrant parce que du coup, on en revient à la question suivante. C'était justement les réactions des publics, en fait. Donc, en général, tu as ces réactions-là autour de leur interprétation à eux. Mais est-ce que, par exemple, tu as eu des retours sur leur reconnaissance de l'exotisation, une expérience cathartique pour ces personnes-là, une découverte ou une reconnaissance de leur fantasme hérité de la colonisation, du racisme systémique et patriarcal? Est-ce qu'il y en a qui ont compris, qui ont ressenti enfin une identification, une représentation qui leur répondait?
Eh bien alors du coup là je répondrai plutôt avec Uterus Cactus, ouais. Ma performance rituelle où là je suis allée plus loin que sur Croqueuse parce que dans Croqueuse j'ai utilisé l'humour aussi, ouais. Et parce que en fait je pense que c'était l'endroit attendu pour une femme, l'endroit attendu pour une noire, je pensais que du coup c'était comme ça que voilà, toujours peur de passer pour une rabat-joie, la relou de service et compagnie.
Black angry woman.
Voilà, donc colère, ouais. En fait c'était toujours effectivement pour moi un moyen de faire entendre ce que j'avais à dire. Dans Uterus Cactus j'étais un peu épuisée de ça et j'ai dit non mais là c'est d'une part je vais arrêter d'utiliser l'humour comme forme, deuxièmement je vais parler de moi complètement et l'assumer complètement, donc c'est un spectacle entièrement autobiographique et dont j'assume totalement le côté autobiographique. Et donc là effectivement en parlant à la première personne mais cette fois-ci sans équivoque voilà possible, donc là les personnes, donc effectivement les retours de femmes racisées ça a beaucoup été merci, voilà, merci. On entend des histoires qui nous ressemblent, ça nous parle de nous. D'autres meufs qui ont dit ah, merci aussi pour la dimension de nudité, de se reconnaître dans un corps qui nous ressemble, que ça ne soit pas gratuit, mais que c'est nécessaire. Des femmes blanches qui, elles, disaient aussi bah, merci pour toute la dimension cathartique, le fait de finalement ne pas rester sur le trauma, mais toujours qu'est-ce que j'apprends de ça, comment je me remets debout. Et puis tous les gestes qui peuvent être inspirants à l'intérieur de la perf et qui du coup peuvent me donner envie moi de faire la même chose pour moi-même, donc c'est
chouette,
ça qu'elle me disait, donc ça c'était super beau. Et puis de la part des hommes vraiment ce qui est souvent revenu c'est sur l'histoire de la nudité aussi, mais qu'est-ce que du coup je me suis pris une claque parce que moi, je rentre dedans tout de suite.
Ouais.
Donc, les 10 premières minutes, tu restes ou tu pars.
Ouais.
Donc, si tu restes, tu vas forcément plonger plus loin. Est-ce que tu as envie de faire ce plongeon? Si tu le fais, en fait, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils se sont rendus compte à quel point, en fait, ils avaient construit justement des fantasmes qui allaient très loin. Donc là, c'était aussi pour eux, quelque part, comme si je leur disais « Bon, allez, hop !» On évacue la question. Alors, c'est ça que tu fantasmes? Bah tiens, allez hop, je te montre. On rentre dedans. Ça y est, t'as vu? Alors, t'es content maintenant?
On peut
Alors,
avancer.
Ça fait quoi? Et en fait, là, du coup, il y a un espèce de petit choc. Là, oups. Là, donc, du coup, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je la regarde? Est-ce que je la regarde pas? Non, je vais pas la regarder, là. Oh, purée, là, j'ai l'occasion de la regarder. Mais non, mais je vais pas la regarder, là. Purée, pour une fois que je peux la regarder. Mais non, mais je vais pas la regarder quand même. Bah si, je vais quand même la regarder. Non, mais ça se fait pas de la regarder. En fait, tu vois, le truc. Et en fait, en même temps, il y a eu le merci.
Ouais.
Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient besoin de revenir.
Ouais.
Il y a d'ailleurs beaucoup plus de personnes qui sont revenues aussi. Beaucoup plus de femmes qui sont revenues. Il y a quand même plus de femmes qui viennent, hein, que ce soit croqueuse ou utérus cactus. Mm-hmm. Mais sur croqueuse, il y a quand même un homme, lui, qui est venu voir le spectacle 7 fois.
Ah ouais.
Et à chaque fois, il ramenait une amie différente, ou une amante. Okay. Voilà. Et en fait, pour lui, il trouvait que c'était un espèce de débat préalable aussi, ou au contraire, on se connaît bien. Tiens, en fait, c'est un point de départ pour des discussions.
Okay.
Il y a des couples aussi qui se sont formés après. Bon, bah, tant mieux. Cœur, si vous voulez, hein, écoutez. Après utérus,
on a eu
c'est
des bébés croqueuses.
Je sais pas. Mais en tout cas, après, pour utérus cactus, là, c'est plus merci et ça vient. Comme je le joue pour en pleine nature et pour la nouvelle lune, il y a aussi souvent le cycle.
Ouais.
Et des fois, j'ai des retours une semaine après, 10 jours, de personnes qui me disent, bah, tu sais, en fait, qui me disent, bah, tu sais, là, il y a quelque chose qui m'est revenu, merci. Moi, je mets des gros trigger warnings quand même.
Ouais.
Je dis vraiment attention, bienvenue en conscience, vraiment attention. On parle de ta 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 ta. Moi, je ne veux pas du tout réveiller des mémoires traumatiques sans un minimum de consentement pour la personne qui vient faire cette démarche. Donc, la pleine nature, ce que ça permet, c'est que je propose une marche d'une demi-heure et les personnes arrivent au lieu de la perte.
Il y a une initiation dès le début.
Voilà, pour moi, c'est ça.
C'est pas mal.
Et en fait, il y en a qui se perdent et qui ne viennent pas. Donc, c'est le hasard de la vie, mais c'est que peut-être ce n'est pas le moment. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi cette chose-là, en fait. Et en même temps, je veux dire, finalement, c'est aussi au niveau... personnel, de dire que en tant que spectateur, spectatrice, tu n'es pas simple consommateur, consommatrice, mais c'est une démarche. Et moi, c'est aussi un dialogue qui ne va pas être sous la forme d'une conversation, mais qui est quelque chose que je partage. Et à la fin, il y a toujours un cercle d'échange possible, de discussion. Et je suis ravie d'entendre ce que les personnes ont à partager. Donc,
c'est ce que tu me disais, toi tu n'as pas de quatrième mur en fait.
Non, pas de quatrième mur. Donc ça, je l'ai vraiment testé avec croqueuse. Au début, c'était vraiment... c'était vraiment séparé. Après, je dirais que c'est toute la dimension de programmation. Hein. Le fait qu'on ne programme jamais, que je galère toujours à être programmée, eh bien, j'ai lancé un appel à des amis en leur demandant qui accueillerait le spectacle dans son salon. Et de fil en aiguille, ça fait boule de neige, une personne, pilote. Puis en fait, quand tu travailles dans le salon, bah, tu n'as pas de quatrième mur. Sur une terrasse, tu n'as pas de quatrième mur. Puis finalement, en fait, tu grandis beaucoup de ça, en fait, parce que ça met dans un échange véritable. Moi, ça pousse beaucoup plus loin. Ça me met en danger aussi, parce que je ne suis pas protégée par les lumières des projecteurs. Et puis aussi, je peux des fois être témoin d'une réaction...
En direct.
Donc ça, c'est aussi très, très fort. Et après, on a ce temps d'échange.
Ouais.
Et pour moi, ce temps d'échange, c'est finalement comme si mon travail... ce que je viens de présenter, devient un prétexte à faire société ensemble.
D'accord.
Quelle société on veut créer, quelles questions on a envie de se poser, quelles questions peut-être on ne s'est pas posées jusqu'ici.
Et
maintenant, ces questions-là, elles émergent dans notre esprit. Ou alors, on se les a déjà posées, peut-être que c'est un angle nouveau. Et en fait, on arrive comme ça à des personnes qui ne se connaissent pas et à échanger ensemble vraiment sur le fond. Et parfois, il y a des personnes qui exercent une profession qui peut être vraiment... je veux dire que cette prise de conscience peut être vraiment capitale.
Ouais.
Des personnes qui sont, par exemple, dans l'éducation, psy. C'est intéressant.
Oui, c'est transversal, hein, ta performance culturelle. Et de toute façon, le secteur culturel a toujours été transversal. Il s'est toujours imprégné d'autres dimensions. Mais il y a politique, humaine, tout simplement...
Ça fait sens. Donc les professions qui sont liées à la santé mentale ou à la santé du corps, et d'autres qui n'ont aucun lien avec la santé toute seule, peuvent se sentir, je pense, imprégnées et appelées par ce que tu fais.
Ben en tout cas, Uterus Cactus, pour moi, ça a été vraiment une grande joie. Et puis, je l'ai vécu comme une consécration d'avoir le soutien du planning familial. Parce que je me suis dit, du coup, le fait que ça soit reconnu à cet endroit-là, ça veut dire que vraiment, c'est l'endroit de mon travail. Et aussi, ça veut dire que ça me sort de l'artiste, tu vois, inaccessible, sur le piédestal. Ou, bon, après, moi, je ne suis pas une vedette, hein, comme vous le savez. Je veux dire, dans le sens où je ne suis pas dans une carrière, quelqu'un de connu, etc. Mais en tout cas...
Mais même, je pense que même si tu ne serais pas dans cette démarche élitiste.
Le côté quand même... le côté quand même coupé du public, quoi, voilà.
Le piédestal.
Donc là, du coup, c'est autre chose. Et du coup, c'est aussi vraiment lié à ma posture politique en tant que citoyenne. Très important pour moi, sur le rôle de l'artiste, pour moi, qui doit refléter la société, l'époque dans laquelle il ou elle vit. Et donc, du coup, transpirer ça, en fait. Comme je dis souvent, moi, et en plus en partant de mon propre matériau, ça, j'y tiens pourquoi ? Pour ne pas parler à la place de personnes, des fois, concernées. Et même si...
Il y a tendance, en tant que personne racisée, à être directement identifiée comme un symbole de toute ta communauté, que tu le veuilles ou non. Donc, c'est bien d'avoir conscience de ça.
Quand même.
Ouais, franchement.
Hyper, hyper important. Et en même temps, je me dis que mais pour certaines sœurs, si je suis le porte-parole, bah, tant mieux, parce que elles ont besoin aussi. Donc, il y a des fois, je pense qu'il y a des choses que je vais me permettre de dire parce qu'en fait, je sais que je peux le dire. En fait, voilà.
C'est ça aussi.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais je dirais que vraiment, moi, je me fous sur la table, sur une paillasse, je m'éventre, je sors les tripes, je les dissèque, je le regarde dans les moindres détails. Et puis après, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là et à quel endroit ça peut rencontrer le chemin de la pensée de quelqu'un d'autre et du vécu, de l'expérience, tout ça. Et c'est ça qui me paraît vraiment super, super important, en fait. Ce n'est pas pour moi-même. C'est, comme je dis, comme l'écho d'un chant, en fait. Je chante et quelqu'un entend cet écho. Quelqu'un le reconnaît parce que, ou quelqu'une, parce que c'est... on vit les mêmes oppressions, en fait. Donc,
il y a de quoi faire. Voilà. Mais du coup, on va en revenir aussi pour l'organisation avec les salles. Comment ça se passe pour les résidences? Quelle est la réalité un peu peut-être justement la violence du secteur, tu en parlais déjà un peu. C'est difficile en tant que peut-être aussi artiste racisé et engagé, de faire valoir son travail et d'avoir des alliés pour mettre en lumière ce travail-là. Donc, comment ça se passe concrètement ?
Bah, en fait, il y a une époque où je me disais que si j'avais parlé de mon parcours migratoire, on m'aurait ouvert des salles, on m'aurait donné des résidences, on m'aurait peut-être même subventionné, en fait, on m'aurait peut-être coproduit même, tu vois ? Voilà.
Ouais.
Mais si je parle de sexualité, c'est pas moi qui dois parler de sexualité, c'est une blanche libérée, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup ça c'est une réalité aussi, ça a été ça. La deuxième chose, ça a été ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'humour. Donc en fait, une meuf noire qui arrive sur un plateau, bon, sinon elle est drôle en fait, tu vois, c'est une Claudia, c'est une, enfin voilà, mais c'est une meuf, voilà, c'est autre chose. Donc j'ai eu droit quand même à l'humour. C'est de l'autre côté du port.
Oh putain,
si tu veux des exemples concrets.
Super violent.
Ça, c'était quand même pas mal.
Ouais, t'es assignée soit à l'humour ou soit à être la bonne copine, mais t'as pas le droit, ou alors à celle qui a souffert par rapport à son peuple, parce qu'on est toutes en train de souffrir, et même si on souffre, on ne vit que de ça. Et non, tu n'as pas le droit de parler de ta sexualité, de ta liberté, en fait, et de ton corps.
Et puis, je vais même te dire que ça peut aller jusqu'à des questions... C'est-à-dire que cette chose d'aborder l'intimité sur scène, cette chose de se mettre en contact avec le public à l'extérieur, du coup, c'est comme si automatiquement, le raccourci, c'est que moi, en tant que programmateur, programmatrice, mais plutôt programmateur, c'était surtout de la part des mecs quand même, j'ai le droit de te demander si tu es excisée.
Oh putain, sérieusement ?
J'ai le droit de te demander si tu es... si tu aimes le cul, en fait, parce que tu traites de ces sujets-là. Donc, il y a aussi quand même, pour moi, tout ça comme violence derrière, évidemment. J'ai le droit de penser que t'es une chaudasse. Donc là, tu dois récupérer tes recettes. On va se donner un rendez-vous en catimini.
Panthère, hein.
Voilà, on va se donner un rendez-vous en catimini sans l'équipe. Et puis, au moment de te remettre les recettes, peut-être qu'il peut y avoir un petit geste.
Si tu veux toutes tes recettes.
Voilà. Putain. Donc ça, c'est des choses qui sont réelles, qui sont quand même assez... assez relou. Après, sur les temps de répétition, sur les temps de mise à disposition de l'espace, sur les temps de technique, alors ça, je ne vais pas dire que c'est propre à une femme racisée, mais je dirais sûrement propre à une femme. C'est-à-dire que dans Croqueuse, je suis accompagnée par un musicien, mais assez systématiquement, on pose les questions aux musiciens, en fait, sur l'installation. Tu vois, mais je pense parce que c'est un mec.
Bien sûr, il a naturellement l'autorité.
Voilà. Donc, ça, je pense que c'est pas forcément propre à une femme racisée. Mais je dirais quand même qu'il y a cette histoire de moins prendre soin.
Ouais.
Moins prendre soin. D'accord. C'est-à-dire que tu dois travailler plus.
Ouais.
Et on prend moins soin de toi. Clairement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si tu demandes pas de catering, t'auras pas de catering. Tu vois, alors que en fait, je pense que si t'es blanche, on va quand même se préoccuper. Ouais,
et si tu prends le temps de le réclamer, en plus, on va te dire, mais elle demande, elle se prend pour qui, pour une diva? Je suis juste une artiste et genre, j'aimerais bien bouffer parce que je viens de faire une performance et que c'est ce qui est dû, en fait. Et en plus, tu dois réclamer quelque chose et on te reproche de le réclamer parce que les gens n'ont pas eu la bien-pensance de te donner ce qui était dû, en fait. Et effectivement, si une... Bref. Mais du coup, je suis obligée d'avancer. Donc, par rapport à cette relation sur les gens qui sont dans la programmation, la gérance des salles, est-ce que tu remarques ce genre de relation aussi, de différence, de séparation et de gap, au fait, avec les artistes même sur ces sujets-là, quand tu abordes, par exemple, des thèmes de déconstruction et de décolonialité, ou même pendant tes spectacles, hein, sur ta sexualité, sur la libération de ton corps, est-ce que avec les artistes même, tu ressens aussi cette violence où il y a une sorte de liberté, de ce fantasme de l'artiste qui est ouvert à tout? Est-ce que ça existe?
Oui, complètement. Alors ça, du coup, je veux bien y répondre. Je voudrais juste quand même dire, juste par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment sur les lieux et les programmateurs et les programmatrices, que les personnes qui ont été des soutiens et des alliés sont essentiellement des femmes. Ça, je dois le dire quand même.
Sans surprise.
Et ça, c'est...
Mais c'est bien de le dire, c'est très important de le dire, bravo.
Oui, c'est hyper important. Donc, vraiment, à Marseille, dans les femmes, on va dire, connues de toutes, il y a vraiment eu Oumi. Oui. Elle a fait partie des premières. Il y a eu Mial, donc Oumi Camara, Mial de Tanmen. Il y a eu Naki d'Afriki Jiggy. Moi, je trouve ça quand même super important de dire que Mona aussi de Cadence Caraïbe. Voilà, moi, je trouve ça quand même important de dire que quand même les femmes, elles ont
été. Je vous salue d'ailleurs.
Voilà, il y a eu Cécile Silvestri aussi de Couleur Cactus qui, elle, organisait un festival qui s'appelait le Festival du Livre de la Canebière.
D'accord.
Et elle, en fait, ce qui a été merveilleux avec elle, c'est qu'elle a imaginé toujours des lieux hyper insolites pour mes perfs. Donc j'ai joué à l'Anse de la Fausse Monnaie, par exemple.
Ok.
Ouais, au Cercle Nautique, en contrebas du théâtre cinéma, magique. Il y a eu aussi des lectures sur un bateau, enfin voilà. Et donc ça, par exemple, elle, c'est une personne qui m'a fait me dire, plutôt que de regarder toutes les personnes qui te programment pas, regarde les personnes qui te programment où elles te programment.
Putain, c'est très
c'est-à-dire
bien dit,
qu'elles te voient finalement hors cadre.
Okay.
Donc toi, tu souffres de pas être reconnu dans le théâtre, dans institutionnel,
les domaines institutionnalisés,
quelque part, tu vois, l'endroit de la reconnaissance.
Exactement.
Mais en fait, toi, quand même, on te propose d'aller performer dans des endroits hyper classe, finalement,
c'est
où
chouette,
t'as une
bateau,
chance.
Quand même,
tu vois. Donc moi, en fait, j'ai aussi réfléchi sur ça, quoi, tu vois. Donc après, pour en revenir aux collaborations.
Oui.
Ça a été quand même quelque chose aussi où ça a été compliqué pour moi de me retrouver des fois à faire de la pédagogie, de recevoir de la violence et en fait, j'ai écrit un petit truc là-dessus parce que justement, j'ai écrit un petit truc là-dessus pour essayer d'expliquer ça. Voilà.
Incroyable comment tu es studieuse, t'as imprimé tes réponses, c'est adorable.
J'ai mis, voilà, donc en fait, c'était la déconstruction et la décolonialité sont-elles des notions facilement abordables? Donc j'ai mis oui, dans ces milieux, je dirais que ce sont des notions facilement abordables, c'est-à-dire qu'on peut en parler, mais en général, suis open, hein. Je te comprends. Hein. Ah ouais, c'est pas cool. Hein. Mais quand l'autre comprend qu'en fait, tu parles d'un problème précis et actuel, c'est plus du tout la même réaction. Ah non, non, mais c'est parce qu'il est vieux. Attends. Non, mais t'as du mal comprendre. Non, mais pas lui, pas elle. Non, franchement, je sais pas si t'as raison de dénoncer ça, hein, franchement. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'on en parle, mais je veux pas entendre quoi que ce soit qui me mette mal à l'aise en tant que blanc ou blanche. Alors, si tu veux bien parler superficiellement, ça me va très bien. Et surtout, ne viens pas me dire que je suis concernée par ton malaise de personne racisée. Voilà. Donc, pour moi, à ce stade-là, il y a deux options. Abandonner ou persévérer. Donc, j'ai beaucoup abandonné parce que les autres me faisaient sentir que j'étais relou, rabat-joie, comme je disais tout à l'heure, parano, bien sûr. Ouais. Hein, ça, c'est évident. Etc. Mais aujourd'hui, je persévère. Je reconnais que c'est beaucoup de travail, comme je l'ai mis, beaucoup de pédagogie. C'est épuisant parfois. Parce que non seulement tu es victime, mais tu dois fournir les preuves de ton état de victime.
Ouais.
Hein ? Tu dois justifier ce que tu avances. Alors, hein, on n'a jamais vu une personne qui dit « je me suis fait agresser », mais en fait, elle doit... Bon, si, bien sûr, on le sait. Alors, parfois, quand je me retrouve à parler pendant... Alors ça, c'est la touche humour. Parfois, quand je me retrouve à parler pendant une heure ou plus pour expliquer, réexpliquer, paraphraser, dire et redire que c'est violent ce que je viens d'entendre et que c'est encore plus violent ce qu'on me répond quand je dis que c'est violent ce que je viens d'entendre, j'ai juste envie de demander 150 euros pour l'heure de formation gratos. Et après cette heure de formation gratos, tu te viens persona non grata, c'est-à-dire on chuchote sur ton passage ou on lance des vannes pourries explicitement provocatrices, comme pour voir si t'as encore les nerfs ou si tu encaisses le racisme ordinaire, parce que après tout, on peut rigoler, non? Non mais attends, t'as pas d'humour? Non mais attends, on peut plus rien dire là ici. On peut plus rien dire.
C'est génial. Oh là là. Et du coup, ça me permet de... Merci, franchement, c'était génial. Et ça me permet du coup de voilà, c'est un peu aussi pour ça, peut-être, que tu en es arrivée à ta carrière essentiellement solo. Est-ce que c'est à cause de ça?
Par défaut. Personne n'est même, je suis Calimero. Non, mais en fait, je dirais que d'un côté, oui. Je dirais aussi que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu aussi des créations collectives dans lesquelles je me suis occupée de la prod, de la diff et tout ça. Je me suis beaucoup, beaucoup fatiguée. Il y a des personnes qui ont abandonné les projets. Ça m'a beaucoup déçue. Et je me suis dit, mais en fait, moi, comme je l'ai expliqué, j'avais cet interdit d'être sur scène. La révélation sur scène, elle s'est faite, j'avais 30 balais. Je me suis dit, attends, mais moi, là, avec tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'écris depuis l'âge de 12 ans, j'ai pas le temps. Donc, si toi, t'es fatiguée et toi, tu peux te taper le caprice d'être dans ton canapé à te demander si oui, non, peut-être, parce que j'ai peur, peut-être, mais non, en fait, moi, non. Il faut que j'y aille, j'ai des choses à dire et tout ça. Et je ne juge pas ces personnes-là, chacun son rythme. Mais du coup,
il y a eu ça. Faut juste être conscient de ses privilèges.
Voilà.
C'est tout ce qu'on demande.
Check tes privilèges, effectivement. Donc, moi, j'avais envie de prendre mon sac à dos et de me dire, moi, je fais mon truc toute seule et tout. Après, j'ai été piégée dans Croqueuse parce que j'ai commencé à jouer avec des musiciens. Je les remercie. Ils ont été tellement merveilleux qu'ils m'ont donné envie d'être toujours avec eux. Donc, j'étais plus toute seule, on était deux. D'ailleurs, je salue mes équipes parce que eux, ça a été aussi des alliés dans le travail, des personnes qui m'ont suivie, qui ont été conscients et alliés dans cette histoire de ne pas être programmés, d'accepter de jouer dans des conditions qui n'étaient pas forcément les conditions dans lesquelles ils ont l'habitude de jouer. Je pense aussi à ma metteur en scène, Muriel Haché, qui a beaucoup travaillé aussi à la valorisation de mon texte, etc. Tout ça, c'est pour moi très important. Mais je dirais que d'un autre côté, non. Parce qu'en fait, j'aime les gens, j'ai toujours envie de créer, de recréer la communauté. Quand je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans, que j'ai compris qu'en fait, c'était des petites boîtes là, où tu mets 4 personnes là-dedans, et les 4 personnes, il faut les appeler 3000 fois avant de passer, que quand tu passes, il faut vite boire le café là, et partir. Parce qu'il n'y a pas le temps là. Et puis qu'en fait après il faut compter là le nombre de carottes dans le frigo là que tu vas manger là parce que attention là, hein. Et donc voilà, tout ça je me suis dit oh là là, non mais c'est... Mais sur ça, je voudrais quand même dire un truc qui était pour moi merveilleux, une merveilleuse expérience, c'est que j'ai passé l'audition qu'avait proposé Rebecca Chaillon,
oui,
pour Carte Noire nommée Désir.
Ouais.
Et là, on s'était retrouvés, en fait, cette audition, elle a pris la forme d'un workshop. On était 70 personnes artistes racisées. Et waouh, mais c'était génial. C'était le kiff absolu. Je me disais, putain, là, je me sens safe, là. J'ai pas de pédago à faire. Vas-y, c'est bon, là. On va rien me dire. Ou je vais être là. Hein? Non, mais attends, là, c'était juste que, en fait, non, mais moi aussi, là, j'ai un truc sur les fesses, là, qui m'en... Voilà, donc ça, pour moi, j'ai envie de dire aussi que, quand même, il y a des personnes avec qui je pourrais travailler, et ces personnes-là, il faut, voilà, les choisir, ouais. Et il faut... Donc, dans l'absolu, on va dire, par la force des choses, je me suis retrouvée à faire quelque chose toute seule. Mais en même temps, c'est bien aussi de travailler avec les autres.
Ouais, voilà. On est des animaux sociaux. Hein,
voilà, quand même.
Alors, du coup, on n'a plus le temps pour faire. Il nous restait normalement deux questions, mais je vais t'en poser une dernière. Je vais survoler tes activités pour, qui s'insèrent aussi dans le territoire Marseille et dans la région. Ça prouve que, avec ce que tu fais, parce que tu fais des... Tu associes au fait ton message artistique avec ton message humaniste autour et avec ton public, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, mais aussi de manière engagée. Là, je pense aux ateliers que tu fais dans les centres culturels et aussi en partenariat avec l'association Éclosion 13, qu'on remercie et qu'on salue. On ne pourra pas discuter là-dessus, mais moi, je voulais surtout te poser une dernière question, du coup. Parle-nous de ton art avec la pandémie. Quels sont les impacts? Et est-ce que tu as un projet à annoncer? Puisqu'après, il faudra vite que j'aille sur les définitions.
Et bien du coup, sur la pandémie, évidemment, toutes les représentations de mes spectacles sont annulées. Ouais. Donc ça, c'est une réalité. Concernant Uterus Cactus, comme je l'ai expliqué, je le joue en pleine nature et pour la nouvelle lune. Donc dès le printemps, je recommencerai.
Et dans deux jours en plus, la pleine lune.
Voilà, mais chaque... Et donc là, voilà, je voulais dire que c'était aussi une cérémonie, c'est ça que j'ai oublié de dire, de nouvelle lune. Oui. Parce que je ne le joue pas pour la pleine lune, pardon, pour la nouvelle lune. C'était une cérémonie de nouvelle lune qui a lieu dans deux jours.
C'est la nouvelle lune qui a lieu dans deux jours.
Voilà, donc là, c'est vraiment... voilà, sur ça. Donc en fait, oui, toutes les représentations. Après, les ateliers continuent, ça, c'est la chance. Ouais. Et les créations aussi. Et actuellement, du coup, je suis aussi en création d'un spectacle avec 10 autres femmes. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont possibles en ce moment par rapport à la situation. On espère que les salles rouvriront. Et concernant les projets...
Amen.
Et concernant les projets futurs, eh bien, en fait, Croqueuse et Utérus sont les deux premiers volets d'une tétralogie. Ensuite, il y a Dévotion sur la relation parent-enfant. Oui, You and Me, l'aliénation dans le rapport amoureux. Donc encore du gros boulot. Et sinon, là, il y a une perf aussi où j'ai pas mal de textes que j'ai commencé à écrire qui s'appelle Tu parles trop. Et le sous-titre, c'est Le burn-out d'une femme racisée, artiste, maman solo... Hommage à Audre Lorde, sortons du silence. Et là, il me faut une table, un festival. J'arrive au début du festival.
Et bien les programmateurs,
je reste jusqu'à la fin du festival et je parle. Vous me mettez une chaise percée à côté, je fais pipi caca là. Vous me donnez 3 graines. Je me nourris et je ne fais que parler. Et avec la question derrière, de fond, du propos, c'est est-ce que un jour on arrive à dire toutes ces choses? Est-ce qu'on arrive à arrêter de se retourner sur cette violence contre soi? Et est-ce qu'on arrive à être totalement délesté, en fait?
C'est une grande question.
Voilà.
Merci beaucoup, Marchou.
Merci
là,
à toi.
Là, je vais en arriver rapidement aux définitions. Et si on a le temps, on pourra quand même te laisser annoncer un endroit où on peut te contacter. D'abord, du coup, alors les définitions, on va commencer par le genre. Alors, dans son approche binaire, selon la définition de l'UNESCO, le genre sous-entend que le rapport entre hommes et femmes est construit par l'ensemble du processus de socialisation. Et du coup, ça, c'est dans sa conception sociologique et binaire. Parce que pour moi, dans mon approche à moi universelle, en fait, c'est une construction sociale qui va au-delà du genre masculin et du genre féminin. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'identifier comme les deux à la fois, et d'autres comme aucune de ces deux catégories. Ensuite, la sororité. Selon le site La Langue Française, j'essaie de sourcer, hein, j'essaie de m'améliorer, mais j'ai toujours pas des sources décoloniales, donc je fais ce que je peux. Il y a beaucoup d'interprétations dedans aussi, donc soyez clément et clémente. Du coup, la sororité, c'est, selon le site La Langue Française, c'est une communauté de femmes. Et dans le langage féministe, j'ai pas compris pourquoi ils ont rajouté ça, c'est le rapport de similitude, de solidarité qui unit les femmes en tant que partageant pareillement la condition féminine. Discrimination, selon l'UNESCO, on parle de discrimination lorsqu'une personne est traitée différemment, uniquement en fonction de son appartenance à un groupe ethnique, linguistique, national, religieux, social, sexuel, etc. Les discriminations sont en général négatives. Elles viennent du sexisme et de l'organisation différenciée de la société selon les sexes. Et pour compléter avec le lexique de décoloniser les arts, alors action positive contre les discriminations devrait remplacer l'idée de discrimination positive. Moi j'explique ça parce que la teneur connotée du terme annule déjà en fait la simple idée que la discrimination puisse être positive. Exotisation. Alors du coup, ça, ça a été emprunté à la réflexion, l'ouvrage de Carlos Alfonso López Lizarazu. Alors, exotisation ou néo-exotisation dans la Grande Caraïbe hispanique. Donc lui, son approche, elle est géographique. La mienne, elle est sociologique et géographique et historique. Mais c'est un mélange de ces mots et des miens. Du coup, c'est un processus impliquant une idée traditionnelle fondée sur l'eurocentrisme pour représenter un espace géographique et du coup, ici, le corps racisé. La pratique néo-exotique, puisqu'on n'en a pas fini avec ça, est issue de la consommation transculturelle et justifiée par le multiculturalisme et il y a une certaine aussi asepsie idéologique. Ce phénomène maquille et affecte la forme artistique pour rendre le sujet, c'est-à-dire l'être racisé, attirant et générer des fantasmes majoritairement sexuels, généralement socioculturels. Réification, objectivation. La notion de réification de Frédéric van der Berg. Excusez-moi si je me suis trompée. Alors, selon l'étymologie, c'est une contraction du latin res effacere, qui veut dire transformation effective ou mentale de quelque chose qui, à l'origine, ne fut pas une chose. Donc, dans son usage standard, le terme est connoté négativement. Il désigne le devenir chose, entre guillemets. Dans ce cas précis, le corps racisé devient un objet de fantasme et cela peut être lié aussi à son exotisation. La culture du viol, récupérée sur le compte Insta de Traduction Militante, culture dans laquelle les violences sexuelles sont traitées comme étant la norme et les victimes sont humiliées par leurs propres agressions. Ce n'est pas juste les normes culturelles et les institutions qui protègent les violeurs, elles font aussi la promotion de l'impunité et humilient les victimes et exigent en plus que les femmes fassent des sacrifices irraisonnables pour éviter les agressions sexuelles. Exemple, quand l'État français élit au poste de ministre de l'Intérieur un homme accusé de viol, ou alors tout simplement quand on te demande de sourire, laisse-moi tranquille. Consentement, selon le Larousse, action, j'insiste sur le terme action, de donner son accord à une action, à un projet, par un acquiescement, par une approbation, par un assentiment, mais on fait l'action d'être consentant, consentante. Déconstruction, qui vient de déconstruction et différence de Lucie Guillemette et Josiane Cossette, Université de Québec à Trois-Rivières, provient initialement du mouvement post-structuraliste et des théories de Jacques Derrida, qui élabore une théorie de la déconstruction du discours, qui remet en cause le fixisme de la structure de la parole. La relation directe entre signifiant et signifié ne tient plus et s'opère alors des glissements de sens infinis d'un signifiant à un autre. C'est-à-dire, notre éducation n'est pas fixe, nos connaissances non plus. On se construit en se déconstruction, en se déconstruisant. Tout ce qu'on a appris peut être aussi désappris. Il n'a pas de valeur définitive. Conscientiser, selon la définition de l'Académie française, j'ai insisté pour l'Académie française parce qu'il me faut un peu rire des fois. Le verbe, ça vient du verbe conscientiser, qui tend à se répandre dans la langue courante. Et c'est une transcription du néologisme anglais to conscientize. Et du coup, l'Académie française nous dit que ce terme, nouveau terme, est souvent mal utilisé. On ne nous donne pas des exemples. Du coup, ça m'inquiète un peu. Mais il nous propose des périphrases. Du coup, ça nous donne aussi une définition. Avertir, sensibiliser, faire prendre conscience. Exagérer, paranoïa. Alors, exagérer, selon le Larousse, c'est amplifier quelque chose, lui donner une importance excessive. Déformer quelque chose en dépassant les normes habituelles. Et la paranoïa, c'est une psychose caractérisée par la présence d'idées délirantes, systématisées et permanentes, surtout à thème de persécution. C'est un comportement, une attitude de quelqu'un ou de quelqu'une, d'un groupe qui a continuellement tendance à se croire persécuté et agressé. À partir de exagéré paranoïa, j'aimerais que vous reteniez la violence de ces termes parce qu'il y a déni après, selon la Larousse, qui est le refus d'un droit, d'une chose légalement due. Pourquoi ? Parce que la fragilité blanche, elle, c'est un concept, selon la sociologue, ce terme il vient de la sociologue Robin DiAngelo, il désigne la difficulté pour les personnes blanches à parler du racisme et de leur rôle dans la perpétuation. Et justement, en général, ils vont utiliser le déni et des termes comme exagéré et paranoïa. C'est extrêmement violent. On est allé à l'école, on connaît ces termes-là. N'utilisez ça, pas ça pour nous. On parle d'un vécu et d'un ressenti. Je parle de « on ». Voilà, je ne représente pas toute la communauté racisée, mais en fait, je représente toutes les communautés racisées qui ont subi un peu de discrimination parce que on sait de quoi on parle. Et accordez-nous un peu de crédit. Et fragilité blanche aussi, selon la Ligue des droits, c'est un état émotionnel intense dans lequel se trouvent les personnes blanches lorsqu'une personne racisée critique certains de leurs comportements jugés racistes. Cet état est caractérisé par des réactions vives, défensives, voire violentes. Cela se traduit par des émotions comme la peur, la colère, la culpabilité ou des comportements comme argumenter, minimiser ou arrêter la conversation. Le propre de ces interactions est de mettre l'accent sur les sentiments négatifs que provoque le critique. C'est exactement ce que tu nous disais tout à l'heure, Marchou. Le sentiment négatif que provoque la critique plutôt que sur l'expérience vécue du racisme. Cela provoque souvent un retournement de situation. La personne racisée se retrouve à rassurer la personne blanche. Et dernier terme, du coup, racisme ordinaire. Ah non, pardon, avant-dernier. Racisme ordinaire, sur la page d'accueil du site internet du musée de l'immigration. Aujourd'hui, dans des démocraties occidentales, seuls des mouvements extrémistes prônent des idéologies racistes. Ça, je suis pas d'accord. Mais il est plus fréquent de rencontrer le racisme au quotidien, dans le logement, le travail, les loisirs, notamment sous forme d'injures, d'agressions et de refus de service, de rendre des services. Racisme rime aussi avec immigration. Ça, je suis plutôt d'accord. Exemple de moi, être félicité pour ne pas avoir d'accent. Tu es naturellement bonne danseuse. Toi, tu es naturellement sportive. Tu ne sais pas nager. Tu es un voleur. Tu es une racaille. Tu changes de trottoir quand on se croise. Tu as peur quand je te suis, alors que je vais juste rentrer chez moi. La charge raciale. Selon le compte Insta, justement, la charge raciale, que je recommande très, très vivement. La charge raciale, c'est le fait de devoir constamment penser à adopter son comportement, à ne pas dire vraiment ce que l'on pense en présence de personnes blanches, parfois pour ne pas le heurter. C'est un mécanisme psychologique épuisant, véridique, vécu. Cela demande de jouer une sorte de double visage, d'effectuer un double jeu. Donc, il nous reste 2 minutes. Je tiens vraiment... J'ai dû accélérer, désolée.
Non,
je tiens vraiment
à... Il n'y a aucun souci, vraiment. Et en plus, je voulais poser une question à Marissaou. Donc,
Ok, alors déjà, je prendrai juste le temps de remercier les équipes. Là, vous avez entendu Erika, big up à toi, Radio Galère. Big merci up beaucoup. Merci à Marchou d'être là. Sachant que ce débat, il est long et j'ai voulu développer un autre format qui pourrait compléter Parlons Culture. Là, j'ai développé une sorte de débat, table ronde débat rencontre qui s'appellera Parlons-en encore avec Marchou aussi, qui aura lieu dimanche 17 janvier, dimanche prochain, de 18h à 20h. Si vous voulez vous inscrire pour continuer de parler sur cette conversation, écrivez-moi à parlonsculture au pluriel 13, parlonsculture13 du coup, @gmail.com. Et du coup, ce débat sera organisé par les Marronneries, du coup, l'association qui porte le podcast culturel, et en partenariat avec Massealia Vox. C'est un lieu, c'est un local dirigé par l'association Massealia Vox, un frère et une sœur vraiment génial, au 15 boulevard de la Liberté 13001 à Marseille. C'est un tiers-lieu populaire de 130 mètres carrés au pied de la gare Saint-Charles, pour développer nos projets et envies. Il y a aussi un accès qui est adapté aux personnes empêchées, donc bravo pour leur effort à ce niveau-là. Un café-jeu, c'est un lieu aussi pour faire un café-jeu et débat. Ils ont aussi développé des jeux pédagogiques qui sont incroyables, je vous les recommande. Un centre de ressources aussi sur la formation, sur les enjeux décoloniaux, sur les questions de genre, sur les cultures et l'histoire de Marseille. C'est ce Marseille populaire aussi. C'est un centre culturel, c'est un laboratoire d'initiatives sociales qui accompagne à la création et développement de projets et qui accueille des projets aussi, etc., etc. Il y a plein d'activités, ils viennent de se lancer, ils accueillent aussi les activités de Les Marronneries. Donc je les remercie et je vous salue. Salut Léa, salut Elias. Et du coup, voilà. Parlons-en encore, ça aura lieu dimanche 17 de 18h à 20h. Écrivez-nous pour continuer de parler de ça. Voilà, je te laisse maintenant parler, Marchou. Juste avant que Erika puisse éventuellement poser sa question, donne-nous un endroit où on peut te contacter aussi pour parler de tes projets à venir, pour revenir aussi si les gens ne veulent que parler avec toi, je comprendrai. Donc voilà, et pour aussi échanger sur tes derniers spectacles. Et voilà.
Donc effectivement, pour suivre toute l'actualité de mon travail artistique, vous pouvez aller sur les pages Facebook Utérus Cactus, Chronique d'une croqueuse, Dévotion, You and Me. Ça, c'est un premier lieu. Ensuite, il y a une association qui porte mes projets aussi, qui s'appelle Zoaprod. Donc www.zoaprod.com. Donc là, c'est possible aussi. Mais par les pages, vous pouvez envoyer des messages. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous... Voilà. Et je poste également l'actualité, donc les représentations, ou en fait des liens. Donc, c'est aussi des lieux de documentation. C'est aussi des liens qui sont en lien avec les sujets, bien sûr, dont il est question dans les spectacles. Et sinon, je voulais faire un petit clin d'œil aussi à la création dans laquelle je me trouve actuellement, puisque je parle des héroïnes noires à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, c'est un spectacle qui s'appelle Les Jupes de ma mère et qui est un hommage à nos mères, soit spirituelles, symboliques, soit à nos aïeules. Et qui est normalement spectacle programmé au Tourski les 20 et 21 avril prochains.
On croise les doigts très fort.
Voilà, c'est un point d'interrogation. interrogations avec tout ce qui se passe. Voilà, mais en tout cas, sinon, vous pouvez suivre pour mes créations personnelles et pour Tu parles trop, je ne manquerai pas aussi de vous dire. Ouais. J'étais presque à deux doigts d'essayer de faire ça dans la rue, hein, puisqu'il me faut juste une table, une caméra. Puis qu'après tout, je peux saouler même les flics s'ils veulent et je continue en garde à vue au comico. Non, mais je n'ai pas fini de parler, en fait, monsieur l'agent.
Ça les déduira peut-être.
Oui, c'est ça. Oui, Erika, pardon.
Non, c'est juste que tu es très drôle, c'est tout. Et du coup, je suis en train de me marrer. En tout cas, merci, hein. Merci à vous vraiment d'avoir fait cette émission, c'était vraiment génial. Merci à toi. Et j'y passe ça parce que je suis derrière à la régie.
Elle est objective.
Même si l'objectivité en soi n'existe pas,
hein, c'est bien vrai.
Il n'y a que les dominants qui pensent qu'ils sont objectifs. Bon, et du coup, je voulais juste savoir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu dis délester, le fait de parler, est-ce que ça nous revient? Est-ce que finalement, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'en jouant, on arrive à être en paix avec tout ça? Peut-être que t'as pas la réponse, mais juste je me pose la question, tu vois. C'est juste en ce moment je me pose la question par rapport à ça. Je sais pas.
Moi, je te dirais que déjà d'écrire énormément, ça fait du coup beaucoup sortir de moi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas parlé des coups de poing sur la. J'ai parlé du coup de poing sur le crépi, mais après il y a un autre texte où je parle des coups de poing sur le papier aussi, tu vois. Et j'ai l'impression que du coup cette perf, si j'arrive vraiment à la partager, c'est aussi ça en fait. C'est quelque part, je me dis qu'il y a quand même. Il y a quand même des choses à dire et quand on les a dites, peut-être dans un contexte, déjà, ça commence à faire du bien, ça peut être entendu, ça existe en fait, c'est ça que je me dis en fait. Et quand je parlais tout à l'heure d'incarner la pensée, la parole dans un corps, c'est aussi ça. Moi, je travaille sur le récit de vie comme outil de valorisation de soi dans les ateliers avec des femmes en non-mixité. Et en fait, c'est ce que je leur dis toujours. Je leur dis, c'est intéressant le récit, mais si en fait vous le portez dans votre corps, c'est encore plus fort parce que déjà vous mettez à distance ce que vous vivez. On valorise ce que vous racontez, on valorise la langue, puisque chaque personne a sa langue propre, sa façon de parler. Mmh. Et en plus, quand vous le partagez dans un espace public, pour moi, vous devenez tout d'un coup... porte-parole de d'une vie et d'autres qui ont besoin d'être entendus, en fait. Et moi, je trouve ça déjà, je trouve que c'est déjà un grand, grand, grand pas, en fait. Et moi, je pense que oui, en fait, les rencontres avec les publics, en tout cas, m'apportent de la paix quand je sens que ça déclenche des choses, hein, même si ça peut être des choses violentes sur le coup qu'on me renvoie. Je sais que la personne, elle est en train de faire un travail intérieur de lutte, soit de fragilité blanche dont tu parlais tout à l'heure, soit, tu vois, de conscientisation.
D'accord.
Mais c'est long, je crois.
Mais justement, il est d'autant plus nécessaire de commencer le processus au fait de déconstruction et de réflexion, en fait. C'est tout ce qu'on demande, c'est d'entamer la démarche et d'y aller autant qu'on puisse, quoi. C'est...
Et je citerai Mial d'ailleurs pour finir, qui parlait on a du coup par elle, hein, par son initiative, organisé plusieurs événements sur la mémoire de 1947 à Madagascar, l'insurrection malgache dont je vous parlais. Voilà, il y a eu donc du coup aussi au Gyptis des projections de films, des performances théâtrales aussi, des lectures. Et Mial parle de mémoire apaisée. Et en fait, cette mémoire, elle peut être apaisée que si on en parle. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Benjamin Mendy, qui nous a quittés, paix à son âme, qui était donc le patron du Ziguinchor. Oui, c'était il y a longtemps, hein. C'est son frère maintenant, Richard, qui est là. Mais Benjamin, lui, ça a été une personne qui est venue me voir pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les premières manifestations qui étaient aussi avec l'Afriki, Cadence et Mamanté et tout ça, Maméga et tout. Et en fait, je me souviens que Benjamin, il travaillait beaucoup là-dessus. Il travaillait à tisser. à tisser, à rassembler, à dire faisons entendre des paroles différentes sur, sur notre histoire et comment, comment on peut travailler à cette mémoire que Mial appelle la mémoire apaisée, mais qui, lui, il ne le formulait pas comme ça, mais c'était cette idée aussi de dire que finalement, on s'en puissante. On est ensemble et on va essayer de reprendre de la force. Et puis aussi son pouvoir d'agir, quoi, parce que quand on dit, en fait, on récupère, ouais, on récupère, voilà, l'action.
En tout cas, merci. Merci pour cette réponse.
Merci beaucoup.
Écoutez, merci à vous. Merci, Myriam.
C'est la fin. Merci à toi, Marfou, d'être venue. Enfin, merci pour cette performance. Et merci de continuer, du coup, dimanche prochain, de dimanche 17 janvier. J'ai du mal avec janvier. Dimanche 17 janvier, de 18h à 19h, au 15 boulevard de la Liberté, pour qu'on en parle encore, oui, avec Marfou. Encore merci d'être venue, vraiment. Merci. Merci à Erika. Merci Radio Galère. Et on se retrouve, du coup, sur les ondes le 8 février prochain.
Au merci.
Pour les quartiers nord, nique ton père sur la canne de bière. Nique tes morts, je te jette au vieux port. Je suis à la zone, claque, ça m'appelle pour kicker. Oublie-moi si tes bails sont pétés. Je suis ailleurs, je trouve de bises à gérer.